Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Autour de la table, un peu de monde, à commencer par Jessie Morfin, bonjour.
Bonjour.
Jessie Morfin, vous êtes sur les financements des entreprises auprès de la communauté de communes du Diwa.
Alors pas que, en fait, je suis chargée de mission développement économique au sein de la communauté des communes du Diwa. Et donc j'ai trois axes principaux de travail, à la fois l'accompagnement des porteurs de projets, qu'ils soient en création ou déjà en activité. J'ai également un axe de travail sur l'immobilier d'activité, donc en commercialisation des zones d'activité et une veille sur les locaux commerciaux, notamment dans les centres-bourgs. Et puis un axe de consolidation des partenariats sur le territoire en matière de création d'activités, développement d'activités.
Ensuite, à vos côtés, nous avons François Noguet. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes au sein de l'IVDD, donc Initiative Vallée de la Drôme d'Iwa. Et vous y pratiquez quelles fonctions ?
Donc je suis directeur de l'association Initiative Vallée de la Drôme d'Iwa.
Après, nous avons Lucie Cordier. Donc vous êtes au sein de l'association Droit Initiative Économique.
Oui, bonjour. Donc je suis Lucie Cordier. Donc je suis conseillère à l'ADI, donc c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Et donc moi je suis conseillère et je fais notamment des permanences tous les 15 jours sur DI.
Ensuite, nous avons Bénédicte Carrel. Bonjour.
Bonjour. Et du coup, je suis directrice territoriale adjointe pour l'ADI sur la Drôme et l'Ardèche.
Et puis pour finir, Antonin pour Cigale.
Oui, bonjour. Oui, Antonin Chaban, membre du groupement de Cigaliers dont on parlera tout à l'heure.
Et Luc Briat, bonjour.
Oui, bonjour. Collègue à Antonin, du coup, et représentant Cigale.
On va parler des financements des entreprises à travers les porteurs de projets et puis les soutiens que sont la communauté de communes ou les communautés de communes plutôt.
Oui, en effet, dans la vallée de la Drôme, les intercommunalités ont un service d'accompagnement aux porteurs de projets économique. Et comment ça se passe dans le Diwa? On a donc un service de... En fait, on a un peu la porte d'entrée de l'ensemble des porteurs de projets qui veulent créer ou qui veulent se développer. Du coup, on les reçoit. On affine les idées avec eux. On leur propose un soutien dans leur démarche et un peu de méthodologie. Et puis voilà, depuis à peu près 20 ans, la communauté de communes apporte ce service en proximité pour les habitants du Diwa. Et donc, à la fois, on travaille sur les lieux d'activité, où est-ce qu'on travaille dans le Diwa. Ça a pu être fait sur des rencontres dans les différents espaces de coworking qu'il y a sur le Diwa. On travaille également sur des manières d'entreprendre avec les différentes coopératives d'activité. Et cette fois-ci, on voulait mettre un peu à l'honneur nos partenaires aussi autour du financement. Parce qu'il arrive à un moment l'étape du financement du projet, recherche de financement. Donc à la communauté de communes, on va essayer d'apporter une aide à la recherche de subventions. Donc ça peut être des subventions régionales, départementales ou européennes. Mais on peut également mettre en relation nos porteurs de projets avec des partenaires qui vont plutôt aider à d'autres types de financement comme les prêts d'honneur. Et donc il nous semblait intéressant de réunir les différents partenaires qu'on a sur le territoire. Donc la plateforme Initiative Vallée de la Drôme, l'ADI, les Cigales. Et puis il y a également aussi la plateforme Initiative, donc de France Active là, sur la Drôme et l'Ardèche. Et donc on met en relation nos différents porteurs de projets avec eux. Et là, c'était l'occasion de se réunir parce qu'il y a des nouvelles personnes dans les différentes équipes. Donc ça nous permet de faire connaissance et puis de représenter un peu tous ces dispositifs qui peuvent exister sur le territoire.
Pour ça, nous avons des organismes autour de la table, comme la DIE, IVDD. Donc, les prêts d'honneur, IVDD, vous pratiquez justement ça ?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, Initiative Vallée de la Drôme d'Iois, c'est une association qui appartient à un réseau national qui s'appelle Initiative France, et c'est une association qui fait des prêts d'honneur. La particularité, c'est que ce sont des prêts à la personne, qui sont obligatoirement couplés avec un prêt bancaire. Et l'objectif est de pouvoir consolider en fait l'apport de la personne qui va créer son activité et de pouvoir financer en fait ce que les banques ne financent pas habituellement, c'est-à-dire la trésorerie, le besoin en fonds de roulement, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui vient nous voir, en règle générale, va avoir des besoins d'investissement, acheter du matériel, éventuellement faire des travaux dans son local, ou acheter un camion par exemple, etc. Ce genre de financement sont assez bien financés aujourd'hui par les banques. Et nous, on va arriver pour apporter un complément sur justement ce que les banques n'aiment pas trop financer, c'est-à-dire la trésorerie et les premiers mois de démarrage de l'activité, quoi.
Voilà, vous êtes en quelque sorte un relais des banques qui n'osent pas forcément investir, mais vous passez par le biais, qui passe par le biais d'une structure établie, donc.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un rôle d'intermédiation bancaire qui est assez reconnu, hein, puisque l'association existe depuis une vingtaine d'années dans la vallée. Et aujourd'hui, on est très reconnu par les réseaux bancaires. Les porteurs de projets viennent nous voir soit directement, soit par effectivement nos partenaires communautés de communes, hein, les trois communautés de communes de la vallée de la Drôme. Mais aussi beaucoup par les réseaux bancaires et les réseaux d'experts comptables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banquiers de la place ont le réflexe en fait, de nous envoyer des personnes. Et puis pour eux, c'est aussi une manière de conforter leurs décisions sur des projets sur lesquels ils n'iraient pas forcément sans avoir le soutien de l'association. Donc on peut dire qu'on a fait effectivement un effet levier important sur le financement des entreprises qui se créent dans la vallée de la Drôme.
Si je comprends bien, les structures comme Cigale, ADIE, IVDD, entre autres, sont des faire-valoir auprès des financeurs.
Oui, je peux juste répondre là-dessus, avant de peut-être laisser la parole à mes petits camarades. C'est vrai qu'on a... On intervient aussi dans là où effectivement des banques n'interviendraient pas. Alors pour les Cigales en fonds de roulement, pour l'ADI sur des personnes qui peuvent être exclues du système bancaire, pour IVDD effectivement pour permettre un effet levier. Donc on permet d'ouvrir un petit peu les possibilités pour les porteurs de projets d'accéder à des financements bancaires, mais surtout ce qui est important. Alors là je parlais plus pour IVDD, c'est qu'on apporte aussi un accompagnement, un suivi en fait, des personnes qui sont financées. Je sais que c'est le cas aussi pour les autres structures. Et donc on va à la fois apporter un suivi technique, hein, pendant toute la durée du remboursement du prêt d'honneur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer les écarts entre les prévisionnels qui ont été faits, la réalité, apporter des actions correctives, conseiller en fait, les personnes dans ce cadre-là, mais on propose aussi un parrainage avec des chefs d'entreprise, soit en activité, soit en retraite, hein, et qui en fait apportent un soutien moral, mais aussi un accompagnement sur la posture du chef d'entreprise, puisque bien souvent les personnes qui créent sont dans une situation de reconversion, ont déjà par exemple un passé de salarié, et n'ont pas forcément... l'habitude de se retrouver seul aux manettes, un peu isolé aussi pour prendre des décisions stratégiques importantes. Et la notion de parrainage est aussi extrêmement importante pour pouvoir justement avoir quelqu'un qui n'est ni sa famille, ni ses amis, qui est neutre par rapport à l'activité, qui peut faire un effet miroir par rapport à la personne, quoi, dans son activité.
Des choses à rajouter, Bénédicte, Lucie ?
Du coup, elle a dit, on défend que chacun peut devenir entrepreneur s'il est accompagné. Et on peut prêter jusqu'à 10 000 euros à toute personne qui aurait un projet de création d'entreprise. Donc, contrairement à d'autres structures qui vont demander un complément bancaire, à l'ADI, on va pouvoir prêter directement à la personne si le projet a un besoin de financement qui correspond à ce que nous, on va pouvoir prêter. Et ça va être du financement accompagné. Parce que comme les autres structures, on ne laisse pas nos créateurs seuls dans leur coin et on les accompagne en leur proposant de les aider à choisir leur statut, les aider à réfléchir à leur stratégie commerciale afin d'avoir plus de chances de réussite possible.
Comment s'opère l'attribution à certaines entreprises de ces financements ? Vous vous réunissez dans quel contexte ? De manière collégiale ou alors c'est juste une organisation qui décide ?
À l'ADI, on est donc une association et donc on est maître de nos décisions. Donc on décide nous-mêmes des dossiers qu'on va pouvoir accompagner. Alors nos décisions, elles sont donc un créateur qui a un besoin de financement pour son projet va rencontrer Lucie sur le territoire. Il va discuter avec elle de son projet de création. Elle va étudier avec lui la réalisation. Est-ce que ça va être rentable pour lui ? Est-ce qu'il ne va pas prendre trop de risques ? Et si la personne, son projet est mûr et qu'elle est prête à démarrer, on va passer son dossier devant un comité qui est constitué de personnes de l'ADI, des bénévoles et puis des salariés. Puisqu'à l'ADI, on est une association, donc on a la chance de pouvoir travailler avec des bénévoles qui vont décider si le projet va être finançable ou pas. Sachant que ce qu'on préfère faire à l'ADI, c'est prêter de l'argent.
Quels sont les critères, justement, par rapport au territoire ? Est-ce que le long terme est une évidence, déjà, certainement, pour l'entreprise ?
Alors nous, à l'ADI, on ne voit pas forcément la création d'entreprise comme quelque chose qui doit durer toute une vie. Ça peut être une étape dans la vie d'une personne. On peut créer une entreprise pendant un an, pendant deux ans, pendant dix ans ou toute une vie. Ça dépend de chacun. Après, ce qui est important, c'est que la personne essaye et qu'elle ne se mette pas en difficulté par la suite. Donc nous, on va prêter pour des tests d'activité, pour des projets où la personne va créer son propre emploi.
Oui, par rapport à... À IVDD, effectivement, on a à peu près le même mode de fonctionnement que l'ADI, c'est-à-dire que les personnes sont d'abord accueillies par les chargés de mission des communautés de communes de la vallée de la Drôme pour, comme l'avait rappelé Jessie, travailler un peu sur le montage de leur projet, structurer leur idée. Et ensuite, ils viennent nous voir et les chargés de mission de l'Initiative Vallée de la Drôme, dis-moi, font une expertise technique de leur plan de financement pour ensuite passer devant un comité d'agrément qui est constitué de bénévoles de l'association, mais aussi de professionnels du territoire, donc assureurs, banquiers, experts comptables, qui votent sur l'attribution des prêts d'honneur. Ce qui est important aussi par rapport à ce qui a été dit, c'est que les modalités d'attribution, enfin, pour Initiative Vallée de la Drôme Diwan, nos fonds de prêt sont constitués par des fonds publics, mais aussi par des fonds privés. L'association est financée par 100% par des fonds publics. Donc, d'une certaine manière, on assure une mission de service public et tous les projets de développement économique, de création d'entreprise, peuvent venir nous voir sans exclusivité. Alors, effectivement, on ne peut pas financer des activités d'intermédiation bancaire, par exemple. On a quelques exclusions comme ça, mais notre objectif, c'est de pouvoir financer tout type de projet qui arrive potentiellement créateur d'emplois également. C'est aussi une notion qui est importante pour des personnes aussi qui peuvent être éloignées de l'emploi, etc. Donc, ces critères-là sont importants, mais d'une manière générale, on va aider toute personne qui a un projet de création, reprise, voire développement d'entreprise, puisqu'on peut intervenir aussi dans le cadre d'entreprises qui existent déjà, qui ont moins de 5 ans.
Et pour les Cigales, quelles sont vos activités, ou votre pratique autour de ce thème ?
Eh bien, on va avoir une approche complémentaire. Alors, juste pour revenir, Cigales, c'est un acronyme qui veut dire Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Bon, c'est plus facile de dire Cigales. Qui est également un réseau, donc, comme les autres intervenants ici, un réseau national. Et donc, on a créé la structure DIWAS il y a à peu près un an et demi pour venir justement en complément de ces approches peut-être plus institutionnelles ou associatives. Avec la différence va surtout se faire par donc ce biais financement, bien sûr, mais qui va être finalement que minime par rapport à ce qu'on peut apporter aux porteurs de projets. Des alternatives existent aujourd'hui pour les aider, pour aller chercher des fonds. augmenter leur trésorerie, combler peut-être des besoins en fonds de roulement. Nous, ce qu'on va faire, sachant que la partie financement va rester, j'allais dire symbolique, mais va avoir quand même un poids auprès des financeurs potentiels locaux, puisque les gens qui constituent la Cigale sont pour la plupart des entrepreneurs avec une histoire, avec une expérience et avec un réseau de contacts souvent bien étoffé qui permettra justement d'aller débloquer certains fonds. Donc là, on va plus jouer comme, pareil, un effet de levier. Et la grosse partie de notre activité vient surtout à épauler le porteur de projet grâce aux compétences multiples des gens qui composent la Cigale. Donc il y a des gens qui travaillent dans l'univers numérique, il y en a qui vont travailler plus peut-être le côté comptable. L'expérience entrepreneuriale aussi de toutes ces personnes-là sont d'une richesse sans nom pour les porteurs de projet. Donc voilà, on va avoir cette approche un petit peu différente, alternative, mais complémentaire à ce qui peut déjà être proposé par les autres intervenants d'aujourd'hui.
Je suppose que le critère principal, c'est quand même un respect de l'environnement dans ce que vous, étayez.
En tout cas, là, au nom de la Cigale, c'est vrai que les facteurs principaux, en tout cas lorsqu'on va décider sur peut-être quel projet on va accompagner le porteur, ça va être déjà l'impact social, sociétal et bien évidemment environnemental qui va dicter finalement un petit peu nos décisions.
Voilà un souci qu'on peut trouver dans les autres formations, je suppose.
Oui, c'est quelque chose sur lequel on est attentif, mais en fait, surtout pour nous qui travaillons un peu main dans la main avec les communautés de communes, ce qui est très important pour l'attribution aussi des prêts d'honneur, c'est l'impact sur le territoire, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que c'est très important de travailler avec les chargés de mission des communautés de communes, puisque pour nous, c'est aussi de pouvoir valider l'intérêt d'un projet économique complètement privé sur le territoire, au sein des communes qui constituent les communautés de communes, quoi. Par exemple, un boulanger dans un village un peu reculé, pour nous, c'est quelque chose qui a aussi, même si c'est en soi, c'est pas forcément une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça a un impact social très important et ça fait continuer à faire vivre le village. Donc c'est quelque chose qu'on va prendre en compte dans l'attribution de nos prêts, par exemple.
Ça, c'est dans vos perspectives, justement, de ramener une économie dans des villages un peu reculés, sur le Diwa, par exemple.
Pour nous, au niveau de l'ADI, vraiment la mission principale de l'ADI, c'est de permettre aux personnes de retrouver un emploi, de créer leur emploi avec l'outil du microcrédit. Moi, je me dis ce qui peut effectivement d'aider les territoires ruraux ou les personnes qui sont éloignées des grands bassins d'emploi souvent la création d'entreprises, ça peut être vraiment une solution pour rester sur le territoire et créer son emploi. Ça peut être intéressant peut-être qu'on donne des exemples concrets pour que les personnes voient bien sur quel type de projet chaque structure intervient. Parfois on intervient en complémentarité, parfois séparément. Moi je voulais parler par exemple de Zélia qu'on a financé sur le territoire du Diwa, qui a créé son activité de snack ambulant. Donc elle avait acheté une caravane et nous on a fait le financement pour qu'elle puisse l'aménager et créer son activité de snack ambulant, puisque elle était déjà depuis quelques années sur le territoire, mais elle devait faire une reconversion totale par rapport à son passé professionnel. Et du coup, c'est quelqu'un effectivement qu'on a pu financer, qui a pu développer son activité et qu'on a pu refinancer quelques mois après, parce qu'après elle a eu une opportunité pour reprendre un petit bar snack de la commune. Donc pour donner un peu une idée sur le type de projet sur lequel on intervient.
Ça, c'est un exemple. Oui. Est-ce qu'il y a des données d'un bilan de ce qui a été fait depuis ce début de programme ?
Depuis le début de l'année, là, 2019, on a reçu à la communauté des communes une centaine de porteurs de projets. Donc alors nous, on reçoit tout type de projet. Hein, on n'est pas, comment dire, on ne sélectionne pas à la finalité de l'activité ou au statut de l'activité. Mais donc voilà, on a reçu une centaine de porteurs de projets qui ont soit des projets collectifs, soit des projets individuels. Et sur des secteurs très différents, hein, de la communauté de communes, on a des porteurs de projets dans le Haut-Diois, plutôt vers Saint-Nazaire, le Désert également. Enfin bon, un peu de partout sur le territoire. Et donc voilà, nous, on essaie à chaque fois de les orienter vers les partenaires qui vont correspondre le plus à leurs besoins. Donc si c'est des projets d'économie sociale et solidaire, c'est vrai qu'on va, être attentif, on va plutôt les orienter vers la plateforme France Active qui va pouvoir financer leur projet ou apporter des garanties de prêts bancaires. On peut également les orienter vers les Cigales. Quand on a plutôt des porteurs de projets exclus du système bancaire, ça sera plutôt l'ADI, comme on le disait tout à l'heure. Et puis quand les personnes peuvent avoir accès aux prêts bancaires, on travaille beaucoup aussi avec Initiative. Donc c'est vrai que on est attentif à l'identité des porteurs de projets. On est attentif aussi aux besoins qu'il peut y avoir sur les territoires. On sait qu'il y a des problématiques dans les centres-bourgs. On sait qu'il peut manquer des services aussi dans des endroits un peu plus reculés. On a un territoire rural où on peut avoir beaucoup de besoins en services. Et donc en effet, on encourage. Hein, on est là pour ça, pour encourager toutes les initiatives et essayer de consolider les projets et de faire en sorte qu'ils se réalisent et puis qu'ils soient pérennes dans le temps.
En général, quand vous êtes sollicité par un porteur de projet, le pourcentage d'acceptation est de quel ordre, à peu près à 100%, ou alors vous remettez un peu plus tard ou vous dirigez la personne à reconsidérer sa proposition?
Alors là-dessus, j'aurais très peu de données pour le moment, mais en principe, là sur cette année, j'ai eu un tiers de création vraiment sur les 100 personnes que j'ai reçues, j'ai eu un tiers de création d'activité. Après, j'en ai encore plus de la moitié que je revois plusieurs fois en fait, au moins 2-3 fois pour peaufiner le projet et le faire avancer. Et puis ensuite, peut-être que les partenaires pourront dire un peu plus précisément, enfin voilà, le taux d'attribution par rapport au projet soutenu.
Par exemple, je peux vous donner sur cette année, bon, l'année n'est pas finie, mais pour vous donner des résultats un petit peu intermédiaires, on a passé en comité d'agrément 64 dossiers à peu près depuis le début de l'année 2019 et il y a eu 4 refus. Donc on a une soixantaine de dossiers de porteurs de projets qui ont bénéficié d'un prêt d'honneur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois le parcours en fait du porteur de projet, de travailler sur son idée, de la concrétiser, de l'écrire déjà, de la chiffrer, etc. C'est un exercice qui n'est pas un exercice très simple. Et en général, les personnes qui arrivent devant le comité d'agrément de IVDD sont des personnes qui ont déjà une idée assez précise de ce qu'elles veulent faire. Donc les projets sont déjà quand même assez aboutis, quoi. Donc effectivement, on a assez peu de refus sur le comité d'agrément puisque les dossiers sont bien travaillés en amont, quoi.
Vous parliez de 4 dossiers refusés. Justement, vous continuez un parcours avec ces personnes pour les préparer à une autre commission.
Oui, c'est-à-dire qu'on est jamais fermé. C'est-à-dire que quand on donne un refus, c'est motivé. C'est-à-dire qu'il y a trop d'incertitudes ou on pense que le chiffre d'affaires, par exemple, qui est proposé est trop ambitieux. Notre objectif, c'est pas de punir les personnes, hein, c'est vraiment de prévenir les risques. C'est-à-dire que quand on crée une activité économique, on prend un risque personnel qui est assez important, on change de vie, enfin, ça a un impact qui est important, quoi, aussi bien sur sa vie sociale général que sur les engagements économiques que ça peut représenter. Et nous, notre objectif, c'est que les personnes se lancent dans l'aventure en ayant conscience de l'ensemble des risques qu'elles prennent. Et donc, quand on sent qu'il y a trop d'incertitudes sur un dossier ou sur un projet, que la personne ne maîtrise pas forcément bien son marché ou ses fournisseurs, enfin, dans ces cas-là, effectivement, on peut motiver un refus, mais on explique toujours pourquoi et la porte est toujours ouverte pour ensuite retravailler le dossier si besoin est, quoi.
Et pour l'ADIE, vous avez aussi donc parfois des commissions d'attribution, c'est ça ?
Alors, c'est pas vraiment des commissions d'attribution, c'est des, ce qu'on appelle nous des comités où on décide si on va prêter effectivement à la personne ou pas. Les fonds de l'ADIE, c'est des fonds qu'on emprunte aux banques et qu'on reprête à qui on veut. Et nous, on est très sensible à la personne. L'objectif, c'est pas d'endetter la personne, c'est vraiment lui permettre d'investir dans son entreprise pour que sa situation s'améliore à terme. Mais si la personne est dans une situation trop précaire ou avec des difficultés bancaires qui sont compliquées à ce moment-là de sa vie, ça nous arrive effectivement soit de reporter, soit de dire à la personne que c'est pas possible pour nous d'intervenir à ce moment-là. Mais comme les autres structures, la porte, elle est pas fermée. Des fois, il y a un travail un peu plus profond à faire sur son activité, sur ses perspectives ou sur sa situation avant de pouvoir emprunter.
Vous tous, donc, attribuons des prêts d'honneur. Est-ce que vous avez certainement un regard sur le territoire et sa connaissance pour pouvoir dire ce qui est fiable ou non par rapport à ce prêt d'honneur ? Ça veut dire que vous avez une présence sur le territoire ?
Oui, on a une présence sur les territoires. Après, c'est difficile de dire tel projet va fonctionner, parce qu'en fait, un projet, il tient vraiment à la personne, quoi. C'est-à-dire que les conditions de réussite, et notamment les conditions d'échec, hein, parce qu'on a aussi des projets qui déposent le bilan, enfin des entreprises qui, malheureusement, n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'elles s'étaient fixés. Et bien souvent, on s'aperçoit que c'est des problèmes qui sont liés à la personne ou à son environnement, plus qu'à des questions économiques, en fait, hein, bien souvent. Et le facteur clé de succès d'un projet, c'est vraiment l'implication de la personne dans son projet, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien malin serait celui qui pourrait vous dire tel projet aujourd'hui, à Glandage, ça va marcher à fond, etc. C'est vraiment très difficile, en fait, de pouvoir dire ça. Puis on peut être surpris, c'est-à-dire que sur des projets où on ne s'attendait pas du tout à avoir une réussite, en fait, on s'aperçoit que la personne a mis beaucoup d'énergie, a mobilisé son réseau, etc. Et donc, ça a fait que le projet fonctionne, alors qu'on n'aurait pas du tout... Enfin, pour nous, ça aurait été une prise de risque importante. Mais effectivement, la connaissance du territoire, c'est aussi quelque chose de très important. Je pense notamment pour les commerces ou ce type d'activité... saisonnière ou très liée à l'implantation. Et le fait d'avoir des comités d'agrément composés de gens, de citoyens hein, qui habitent sur place, mais aussi de professionnels, banquiers, experts comptables, de gens qui connaissent bien le tissu économique local, c'est une force, c'est aussi un point très positif. Pas forcément pour prendre des décisions, mais aussi pour conseiller les gens, quoi. Bien souvent, en comité d'agrément, on pose des questions, pas pour les embêter, mais pour aussi les conseiller, leur faire part aussi de l'expérience de chacun par rapport à des conditions d'implantation, par exemple.
Et ce que j'avais envie de rajouter par rapport du coup au partenariat qu'on mène, c'est qu'il n'est pas que sur la recherche de financement. Lors des permanences, on reçoit vraiment des porteurs de projets qui sont à différents stades de leur projet. Hein. C'est de l'idée ou alors ils sont déjà dans leur prévisionnel, enfin voilà, dans le chiffrage de leur projet. Donc, bien sûr, on mobilise ce partenariat pour la réalisation de leur activité, et tant mieux quand ça aboutit, mais c'est également avoir un œil sur leur parcours. Quel est le parcours d'un créateur d'activité? Du coup, on échange pour savoir si ça aboutit ou pas, si ça n'a pas abouti, vers où les orienter. Parfois, ça donne... des résultats complètement inattendus. Hein. Finalement, la personne, en faisant son étude de marché, en allant rencontrer des partenaires ou des fournisseurs ou des concurrents, finalement, retrouve un emploi. Enfin bon, voilà, c'est aussi se mettre dans la démarche de création d'activité, c'est aussi s'ouvrir d'autres portes que celle-ci, quoi.
Tout au long de l'année, je suppose que vous vous retrouvez tous pour déjà prendre une température et puis de trouver des solutions à certains problèmes, par exemple.
Alors, il n'y a rien de vraiment institué pour le moment. C'est vrai que ça pourrait être une idée, voilà, de se donner un rendez-vous régulier dans l'année. Pour le moment, c'est plutôt, au fil du temps, on se donne des nouvelles, surtout quand on a des porteurs de projets qu'on a orientés. Enfin, voilà, on rappelle, on essaie de prendre les actualités de chacun et puis de savoir où sont passés ces porteurs de projets.
Oui, oui, puis après, oui. On connaît bien quand même chacun les différents réseaux et les modes de travail de chaque association. Donc, on est en lien. Jessie fait le travail d'orientation, mais ça peut nous arriver de réorienter vers d'autres partenaires, vers les Cigales ou vers IVDD. On se parle, on se croise et... On se connaît.
Ce qui est intéressant, c'est que l'offre, en fait, elle est territoriale. C'est une offre de proximité en termes de compétences, en termes de financement. Et qu'au travers de cette proximité, effectivement, on se voit de manière formelle ou de manière informelle aussi, au travers de différentes actions qui nous permettent de nous retrouver, qui nous permettent de poser un certain nombre de choses et essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, du coup, pour nous, Cigale, en termes de bilan, on est trop jeune, on est les petits poussés de l'équipe. Mais par contre, on a quand même un bilan, j'allais dire, assez positif, dans le sens où on a notre singularité, elle est liée à l'origine de nos financements, qui sont des fonds totalement privés. Donc chacun met dans la tirelire ce qu'il peut, de manière régulière, de manière à constituer un petit capital qui... dans ce cadre de financement, puisque la journée, enfin en tout cas la radio là, est consacrée au financement, on peut contribuer, comme le disait Antonin, de manière complémentaire aux différentes actions des partenaires ici présents et d'autres. Du coup, notre singularité, elle vient de l'origine de nos fonds, et du coup, notre implication, elle est bien évidemment au travers de notre expérience et de nos compétences, de manière à pouvoir aider et accompagner le porteur de projet, lui donner les bons tuyaux, en tout cas contribuer à lui donner les bons tuyaux. Et puis en même temps, le double effet, c'est que les uns et les autres appartenant à ce club, cet argent qu'on a mis à disposition, on le voit, fructifier. Et il y a une certaine fierté à contribuer à l'économie locale en participant financièrement, encore une fois, et en termes d'accompagnement à la réalisation d'un projet.
J'en profite juste pour rebondir là-dessus, pour faire un petit appel justement aux futurs cigaliers. Celles et ceux qui aimeraient nous rejoindre, on parle de sommes en plus qui restent quand même assez limitées, puisqu'à partir de 8 euros par mois, on peut devenir cigalier. Donc on se fait aller 6 petits cafés. Et puis, au lieu de donner cet argent-là à la banque, on peut financer des projets qui, encore une fois, ont un fort impact social, sociétal et environnemental. Donc, c'est quand même quelque chose d'à la fois beau, quelque chose qui est... Voilà, c'est une aventure humaine, plus qu'une aventure vraiment financière. Et c'est juste génial, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter, soit, j'imagine, sur le site de RDIWA ou même sur le site de Cigale. Donc c'est cigale.diwa.fr. Donc déjà, si vous êtes porteur de projet, bien évidemment, et si vous souhaitez justement aider ces porteurs de projet-là.
Je pose une question globale à tous. Et pour vous, quels sont les projets pour le Diwa?
Au niveau d'IVDD, on continue bien sûr notre mission en partenariat bien sûr avec la communauté de communes du Diwa, juste pour peut-être une petite actualité qui peut être intéressante aussi pour le territoire, ce qu'on vient de développer à l'échelle régionale avec nos petits camarades de Initiative France sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, un nouveau fonds de prêt qui s'adresse spécifiquement aux projets agricoles, où on peut intervenir sur des montants assez importants, jusqu'à 25 000 euros de prêts d'honneur, toujours couplés bien sûr avec un prêt bancaire, et avec un délai de remboursement qui est assez long puisqu'il peut aller jusqu'à 36 mois, c'est-à-dire qu'entre le moment de la création, du décaissement du prêt et les premiers remboursements, il se passe 36 mois, quoi. Ce qui correspond davantage à la réalité d'un projet agricole. Ce fonds est en place, est actif, il existe. Donc on peut nous solliciter directement sur ce type de projet et on commence déjà à avoir des porteurs de projets, notamment dans le Diwa, pour les premiers, hein, qui viennent toquer à la porte et sur lesquels on est en train de travailler là.
Nous, à l'ADI, on souhaite continuer à se faire connaître parce qu'on on souffre d'un déficit de connaissances. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de gens qui créent leur entreprise avec leurs fonds propres et avec toutes leurs économies. Par la peur de s'endetter, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux emprunter un petit peu, surtout que nous, on a des prêts avec... une possibilité d'avoir une prime régionale pour des gens qui vont démarrer leur activité, donc qui ne va pas se rembourser. On complète aussi avec des prêts à 0%, donc ça fait des endettements qui ne sont pas énormes. Et plutôt que les personnes se mettent en difficulté en prenant toute leur épargne, on veut mieux se faire connaître sur la vallée pour que chacun puisse avoir accès à ce capital et démarrer leur activité dans des meilleures conditions.
Par rapport à vous tous, vos compétences à chacun vous ont amené justement à exercer là où vous êtes. Est-ce que vous pourriez vous présenter par exemple là-dessus ?
Je peux commencer. Donc, moi j'ai plutôt un parcours dans l'urbanisme et la politique de la ville, où j'accompagnais des projets associatifs et parfois finalités économiques dans ces espaces-là. La vie m'a conduit aussi à monter une entreprise et puis deux, et puis à intervenir dans une chaîne de magasins. Enfin bon, du coup, j'ai découvert aussi cet environnement-là. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne à mon tour des porteurs de projets.
Merci, Jessie Morfin. François ?
Oui, moi j'ai toujours travaillé dans le domaine du soutien à la création d'entreprise et de l'économie sociale et solidaire. Je connais bien les cigales puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle en développant un réseau de clubs cigales dans le Nord-Pas-de-Calais puisque je viens de Lille. Et puis j'ai longtemps travaillé aussi à l'échelle d'un réseau national de coopératives d'activité et d'emploi. Il y en a d'ailleurs une sur le territoire qui s'appelle Solstice. Donc j'ai travaillé longtemps pour un réseau qui s'appelle Coopérer pour entreprendre et qui accompagnait la création et le développement de ce type de coopérative.
Lucie ?
Oui, moi j'ai longtemps travaillé dans la partie accompagnement amont à la création d'entreprise, donc notamment dans le réseau des boutiques de gestion. Et du coup, j'ai intégré il y a 4 ans l'ADI. Donc, je suis passée du côté financement et puis suivi des entreprises. Et j'ai également ma micro-entreprise en parallèle de mon emploi, donc qui me permet de voir aussi un petit peu concrètement le quotidien de l'entrepreneur.
Bénédicte ?
Moi, j'ai découvert la création d'entreprise en créant une entreprise avec mon mari il y a quelques années. Suite à cette expérience de découverte de comment ça marche une entreprise, l'étude de marché, la recherche de financement, quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, j'ai rencontré l'ADI où je travaille depuis 15 ans maintenant, et ce qui m'a permis de voir la richesse des idées de tous les entrepreneurs, la motivation, l'énergie qu'ils dégagent, et voilà, c'est quelque chose qui est passionnant.
Antonin ?
Je sais pas, je pourrais me qualifier d'aventurier un peu entrepreneur, puisque j'ai pas mal bourlingué depuis justement la fin des études. J'ai été à mon compte au Canada, j'ai monté une petite boîte aux États-Unis, j'ai ouvert des restos français au Mexique. Et puis, à force de voyager un petit peu sur tous les continents, on se rend compte qu'il y a des choses quand même importantes. Et puis cette quête de sens m'a ramené à mes racines drômoises. Et puis, ma quête de sens a fait que j'ai ouvert aussi une entreprise ici et que je m'investis donc aujourd'hui avec le groupe des Cigales.
Et puis, je passe à Luc pour finir.
Alors, grand voyageur également, mais je n'ai jamais croisé Antonin lors de mes voyages, mais j'ai beaucoup contribué au développement d'exploitations agricoles. Ma partie, elle est sur la partie agronomique et plus particulièrement sur des espèces tropicales. Donc, du coup, faire pousser des bananes ou des ananas, ça m'a posé quelques petits problèmes. Et je me suis rabattu sur la culture de plantes aromatiques pendant quelques années. Donc, j'ai un passé qui est lié à ça. Et du coup, d'un point de vue entrepreneuriat, j'ai participé à la création, et participé, j'entends, associé à la création d'un certain nombre d'entreprises, on va dire, à dimension mondiale, pour la production, la collecte, la production et la transformation d'espèces végétales tropicales et d'aromates. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à dire, on va dire, ça comme ça. Et depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai pris la direction du numérique et du digital au travers d'une petite association qui s'appelle l'Atelier, qui est un tiers-lieu, un espace de bureaux partagés et qui se trouve au centre-ville de Die et qui existe maintenant depuis 7 ans.
Je me rends compte qu'en fait, vous tous êtes entrepreneurs, en quelque sorte. Qu'est-ce qui motive une personne d'être entrepreneur ?
Waouh, c'est une question hyper, hyper personnelle, parce qu'on a chacun... l'envie d'entreprendre, c'est une envie de liberté, déjà. Voilà, moi, je dirais ça.
Et le goût de l'aventure aussi.
Et la passion de créer.
Oui, c'est se réaliser dans ce qu'on fait aussi. Hein. C'est très important, ça.
Pour l'avenir, l'entreprise dans le DIY, vous le voyez comment ?
Hybride. Hybride, une partie dématérialisée, pour notamment les citadins qui viennent s'installer ici, et une partie, au contraire, beaucoup plus enracinée dans le savoir-faire territorial, donc que ce soit au niveau agricole ou au niveau artisanat aussi. Donc voilà, vraiment une c'est deux courants qui, je pense, vont petit à petit s'affirmer davantage.
Quand vous dites un savoir-faire territorial, on peut en citer quelques-uns ?
Les rettes, par exemple. Les huiles essentielles, tout ce qui va être vraiment propre aux produits locaux. Et alors, un savoir-faire, il y a des savoir-faire, j'allais dire, alors plus générationnel, pas nécessairement lié au territoire, peut-être pour ce coup-là, mais des métiers oubliés qui reviennent au goût du jour et qui je pense, vont être amenés à se développer de la même manière que tout ce qui est low-tech. Donc, pour faire contrepoids au high-tech, le DIY est quand même un terreau très fertile pour ce type d'initiative qui, par la force des choses, va être amené à se développer. Et je pense qu'on est pas mal en avance là-dessus et qu'on est en train de... Ou en tout cas, il faut prendre justement cette voie-là.
Tout le monde est d'accord avec
de vue ? J'aime beaucoup, ce qualificatif-là d'hybride. Moi, je vois ça aussi, un entrepreneuriat individuel, mais aussi très collectif, à la fois dans les manières d'entreprendre, les structures qui vont venir, et puis aussi dans de plus en plus de réseaux. On se met à partager entre entrepreneurs, Du coup, toujours de l'individualité, mais toujours plus de collectif.
Oui, moi je suis aussi assez d'accord là-dessus, dans le sens où il y a déjà dans le monde du travail, il y a un gros changement par rapport à la notion de télétravail. Il y a d'autres attitudes, on voit dans les centres de décision d'autres formes de management, etc. Donc il y a un impact certain, mais qu'on retrouve aussi dans la configuration des activités économiques qui se présentent à nous. Et donc je pense que ça, effectivement, je rejoins complètement sur la question de l'hybridité, le fait d'avoir des tiers-lieux, ça répond aussi à une certaine forme de demande de personnes qui vont pouvoir à la fois cumuler une activité économique, mais aussi un emploi salarié, par exemple, mais qui vont se retrouver dans des situations un peu d'isolement, quoi. Et donc, effectivement, ce genre d'espace, à la fois d'espace de test, mais aussi d'espace d'échange, me paraissent extrêmement importants. Puis après, dans la vallée, il y a aussi des métiers qui manquent, c'est-à-dire que dans le bâtiment, par exemple, on manque beaucoup d'artisans. Dans les métiers de la restauration, par exemple, il y a encore beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, c'est pas, même si c'est un territoire qui subit la saisonnalité avec les périodes estivales, etc., malgré tout, il manque quand même beaucoup d'activités économiques. Il y a encore beaucoup de choses à faire, quoi.
Oui, je suis d'accord, et je voulais rebondir aussi, effectivement, la multi-activité aussi, nous, c'est ce qu'on voit beaucoup. J'avais un porteur de projet qui se définissait lui-même comme un couteau suisse, je trouvais ça pas mal. Voilà, c'était, je pense que ça va se développer de plus en plus. Ouais.
les moyens que vous avez pour exercer vos initiatives évoluent comment depuis les années que vous pratiquez ? Avec de meilleures conditions ou alors il y a parfois des baisses budgétaires ?
Alors, sur le point de vue, au point de vue budget, moi, je ne vais pas intervenir parce que je ne suis pas compétent en la matière. Et puis, c'est tellement variable en fonction de la nature du projet et la manière, ou en tout cas la posture du porteur de projet, à savoir s'il va demander telle ou telle subvention, demander l'aide de telle ou telle structure, tel asso, s'il appartient à un réseau, s'il est là déjà depuis un certain nombre d'années, il connaît les ficelles, s'il vient d'arriver, il ne les connaît pas. Enfin, il y a un tas de paramètres qui interviennent qui font qu'en termes de financement, c'est assez difficile. Mais là, ce qui est important, je crois aussi, c'est de pouvoir accueillir de nouveaux arrivants et au travers d'un espace collaboratif de travail, de bureaux partagés. Il en existe un certain nombre sur le territoire entre L'Oriole et Eddy. Il y en a une petite dizaine d'espaces qui permet d'accueillir de nouveaux porteurs de projets ou des porteurs de projets déjà existants mais qui, pour X raisons, ont muté leur activité dans la région. Et du coup, je pense que notre force, elle est aussi de pouvoir attirer et d'accueillir un certain nombre de nouveaux arrivants qui viennent de l'extérieur. Et c'est une chance, je pense, que pour le territoire, au travers de la Biovallée, au travers de l'éthique, globalement, que draine cette vallée, il y a une certaine notoriété, il y a une promotion, et du coup, ces espaces permettent d'accueillir ces gens. Et du coup, le grand bénéfice, je dirais, de cette opération, c'est aussi d'accueillir de nouvelles compétences et de développer ou de contribuer à développer de nouveaux projets par rapport au fait qu'il y a un angle de vision qui est différent, il y a une richesse humaine qui amène justement à enrichir le projet et à permettre à le développer peut-être un petit peu autrement. Alors au travers du mot « autrement », travailler autrement, faire autrement, c'est un vaste sujet, mais en tout cas, la vallée s'y prête.
Les espaces de coworking correspondent un peu à ces attentes aussi ?
Bah alors là, je vais encore prendre la parole.
J'appelle ça justement un cas de figure hybride, en quelque sorte.
Oui, et qui s'adresse à différents profils, soit des gens, encore une fois, je reviens sur ces profils citadins, parce que je partage des bureaux, moi, justement, avec des personnes qui viennent de Lyon, de Lille, de Paris, de Marseille, qui ont quitté, on va dire, les bureaux de leur boîte existante. Donc, eux sont employés, mais viennent s'installer ici tout en conservant leur travail. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle du télétravail, du remote, peu importe le terme. Et il y a d'autres personnes qui, comme moi par exemple, qui exercent une activité à leur compte, mais qui n'ont pas besoin ni de bureau physique, ni d'avoir pignon sur rue, et qui peuvent tout à fait, justement, dans ces lieux-là, pouvoir exercer sans le moindre problème, et avec une infrastructure, notamment là où je suis, par exemple, il y a la fibre, en tout cas des facilités qui nous permettent d'exercer, mais sans le moindre problème. Et tout en conservant, justement, cet aspect collectif, puisqu'on a beau être en télétravail ou être... On ne perd pas ce côté équipe, puisqu'on partage des bureaux avec d'autres personnes qui, en plus, viennent enrichir les lieux, puisque avec d'autres parcours, d'autres compétences, d'autres âges, bon, bref, d'autres origines. Ce qui fait qu'on se retrouve tous autour de la machine à café, parfois un peu trop souvent. Et c'est des moments qui sont absolument géniaux et qui méritent à se multiplier.
Il y a une réflexion justement sur la construction d'espaces de coworking, de lieux ou de réaménagement de lieux, qui permettrait plus... par exemple une disposition d'ateliers temporaires pour une activité artisanale au lieu d'avoir une location qui est souvent lourde en charge.
Ouais, moi je peux dire juste un petit mot. Je suis pas un spécialiste du coworking, mais effectivement, c'est comme ça a été souligné, c'est des espaces qui se développent beaucoup, notamment dans les milieux ruraux. Ça correspond à un vrai besoin, comme ça a été souligné. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer sur d'autres activités. Moi, je connais des exemples de cuisine partagée, par exemple, pour des porteurs de projets qui veulent se tester dans ce secteur d'activité, mais qui n'ont pas forcément envie d'investir énormément, de prendre le risque. Et donc c'est une manière aussi à la fois de partager des locaux, d'avoir un espace test aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de porteurs de projets dans le chocolat aussi, dans la vallée, qui sont développés. Ça peut être une filière qui peut être structurée justement par ce type de lieu. Donc je pense qu'on peut aller plus loin, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui on partage des bureaux, mais on pourrait aussi partager des moyens de production, arriver à à co-investir sur ce, ce type de projet, aller un peu plus loin, quoi, passer la seconde pour essayer de créer des espaces tests, créer des espaces mutualisés sur des activités, sur des filières sur lesquelles on pourrait repérer une tension, par exemple, ou des besoins spécifiques, quoi.
En effet, moi je peux confirmer ce qui a été dit durant les permanences là, de l'accueil des porteurs de projets. Voilà. On vient souvent nous proposer ce type de projet de mutualisation d'espace à la fois voilà, pour l'artisanat, pour ce genre d'activités qui ne sont pas forcément dans le tertiaire, mais voilà, d'ateliers. Puis c'est un moyen aussi d'optimiser l'espace.
L'émission se termine, hein, l'heure a abouti. Je vous remercie tous, à commencer par Luc Briat, Antonin Chaman, Bénédicte Carrel, Lucie Cordier, François Noguet et Jessie Morfin pour la CCD. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Merci. Bonne soirée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Okay, the bird.